Vous avez la parole.
Thank you very much, Mr. Chair, and good morning, colleagues.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. L'Union européenne trouve que c'est un point très important et c'est un point qui mérite toute notre attention. Comme vous le savez, en 2002, la Commission de l'époque, donc la Commission des droits de l'homme, avait adopté la résolution 2002/68 par laquelle elle portait création de ces trois mécanismes que nous avons aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre les décisions qui avaient été prises à Durban. Donc, on a le groupe de travail intergouvernemental qui, effectivement, est habilité à formuler des recommandations afin de mettre en œuvre avec efficacité le DDPA. Et le mandat prévoyait d'ailleurs à l'origine un élément selon lequel on était censé préparer des normes complémentaires pour renforcer et mettre à jour les instruments internationaux. Puis, il y avait également le groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine. Et le groupe de travail des 5 experts indépendants qui a aussi été créé au même moment. Ce qui est important, c'est que la même résolution disait très clairement que le mandat de ce dernier mécanisme, donc le groupe des 5 experts indépendants, devait faire l'objet d'un suivi constant. Par la suite, en 2007, le mandat pour élaborer des normes complémentaires a été déplacé pour être placé entre les mains du comité ad hoc. Alors, comme cela a été dit un petit peu plus tôt, l'Union européenne considère qu'il est vraiment nécessaire de réfléchir. Réfléchir à quoi? Voir comment on peut changer les choses, comment faire en sorte que notre travail a des conséquences concrètes, parce qu'au bout du compte, c'est ce que nous recherchons tous. Et particulièrement à l'heure où les ressources sont limitées. Étant donné les limitations qui existent, on doit vraiment établir des priorités et on doit le montrer. On doit également appliquer une approche basée sur les droits de l'homme dans toutes nos actions, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Le problème qui se pose, c'est que l'on a de nombreux mécanismes qui sont axés autour de la lutte contre le racisme, mais qui ne portent pas nécessairement leurs fruits. Donc c'est l'occasion de revenir dessus, d'évaluer les mécanismes qui existent et de définir peut-être des domaines dans lesquels on pourrait agir à titre prioritaire. Dans ce contexte, étant donné que, comme l'a d'ailleurs déjà dit l'Union européenne par le passé, nous ne sommes pas convaincus que le groupe d'experts éminents indépendants apporte une quelconque valeur ajoutée dans le cadre de la lutte contre le racisme et la mise en œuvre du DDPA. Et je dois répéter la requête que nous faisons déjà depuis un certain temps maintenant pour dissoudre ce groupe et voir comment nous pouvons mieux utiliser les ressources. Je dois également dire, comme vous le savez, que l'Union européenne n'a jamais été favorable à la création du comité ad hoc. Et nous demeurons convaincus que le CERD, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, doit être la base de tous les efforts pour lutter et éradiquer le racisme. Et à notre avis, il n'y a pas d'accord montrant que la Convention ait des lacunes. Il n'y a rien non plus qui montre que la Convention ne répond pas aux formes contemporaines de racisme, notamment au fait d'ériger en infraction pénale les actes de nature xénophobe ou raciste. Pourquoi je vous parle de tout cela? Eh bien parce que nous sommes prêts, très clairement, à avoir ce débat, à discuter de la façon dont on peut redynamiser les travaux de ce mécanisme et les intégrer, les profiler pour que notre travail soit vraiment pertinent. Et nous sommes convaincus que l'impact sur le terrain n'est pas obtenu en fonction du nombre, de la multiplicité de mécanismes que l'on a. Au contraire, il faut qu'il y ait un véritable sens de la propriété. Ce que l'on veut, c'est que les États participent, s'approprient, participent à ces réunions, et notamment la nôtre, et qu'ils rentrent chez eux avec les recommandations et les conclusions que nous rédigeons et qu'ils s'en servent comme base pour définir des politiques. Donc de nouveau, j'appelle tous nos partenaires ici dans la salle à avoir cette discussion dans le contexte des droits de l'homme pour savoir si oui ou non il faut renouveler les mandats, pendant combien de jours, pendant combien de semaines. Et ce faisant, gardez à l'esprit que ce que l'on veut au bout du compte, c'est que les choses changent.